7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Aujourd'hui à 18h, le Conseil français du culte musulman déterminera le début du mois de jeûne. Il pourrait commencer ce vendredi. La nouvelle lune apparaîtra à 3h26, heure française, lors de la nuit du doute. Les circonstances inédites chamboulent les rituels publics du Ramadan. Bonjour Mohamed Bajrafil.
Bonjour.
Vous êtes islamologue, théologien et essayiste. Vous avez notamment publié « Réveillons-nous, lettre à un jeune français musulman » aux éditions Plein Jour. Alors tout d'abord, une question sur la fixation du début du Ramadan. Pourquoi faut-il une réunion du Conseil français du culte musulman ? Comment ça se passe ?
Très rapidement, parce que les gens, dans leur grande majorité, jeûnent ou rompent le jeûne, c'est-à-dire à la fin du mois, à l'apparition de la lune à l'horizon. Il se trouve que depuis des temps immémoriaux, on parle également de la méthode du calcul astronomique et justement les informations que vous venez de donner, qui sont des informations purement scientifiques parce qu'astronomiques, disent quand va avoir lieu l'alignement du Soleil, de la Lune et de la Terre, qu'on appelle conjonction, et nous autres, nous jeûnons à partir de l'instant où ces informations sont connues. Or, celles-ci peuvent être connues des millions d'années à l'avance. C'est la raison pour laquelle, par exemple, pour moi, c'est demain qu'on commencera le jeûne. Le Conseil français du culte musulman, lui, il est sur l'axe de la grande majorité des musulmans du monde entier, qui dit que l'on jeûne à partir de l'instant où on a vu la Lune à l'horizon.
Si vous deviez, Mohamed Bajrafil, évoquer devant un néophyte ce qu'est le Ramadan, comment présenteriez-vous cette période ? À quoi correspond-il selon vous, vous qui êtes imam ?
Alors, le Ramadan, paradoxalement, ou plutôt normalement, est une pratique cachée. Donc qui cadre parfaitement avec le confinement. Il y a ce que moi j'appelle le confinement spirituel, qui consiste à vivre de manière cachée sa pratique. Or, le jeûne est par définition la pratique la plus cachée qui soit, parce que voyez-vous, je peux me cacher chez moi, manger et sortir, vous donner l'impression d'avoir jeûné alors que ce n'est pas le cas du tout. Donc, en cette période de confinement où il n'y a aucune possibilité d'ostentation, parce que voyez-vous, le fait d'aller à la mosquée, par exemple, peut être pour moi un moyen de montrer aux gens que je suis un fidèle de la mosquée alors qu'en réalité, au fond de moi, je n'y pense pas une seule seconde. Là, il nous est donné la possibilité justement de conjuguer confinement corporel avec confinement spirituel, et de mon point de vue, c'est la meilleure chose qui soit. Naturellement, on aime bien voir les autres, etc. Mais vous savez, il y a derrière tout mal un bien, et je pense que pour ce qui est de la pratique du jeûne, pour être précis, eh bien, ce sera, j'ai envie de dire, cette conjugaison corporello-spirituelle qui nous permettra de mieux vivre le Ramadan. Et le Ramadan, très rapidement, consiste en deux choses: ne pas manger, ne pas boire et ne pas avoir de relations sexuelles, du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Ça, c'est sur le plan sur l'aspect purement physique. Il y a un aspect moral qui consiste justement à s'éloigner, ne serait-ce que sur le plan psychologique, de tout tare, de tout vice, pour, n'est-ce pas, être en symbiose avec à la fois son environnement et surtout son créateur. Voilà en quelques mots ce que le Ramadan représente.
Quand vous parlez de tout vice, est-ce que le fait de faire pression sur d'autres musulmans pour qu'ils fassent le Ramadan, est-ce que ça n'est pas une manière d'exercer une pression morale ? Alors, sur le plan républicain, elle est évidemment impossible à accepter, mais vous qui êtes imam, qu'en pensez-vous ?
En fait, moi, je dis tout le temps que, y compris la parole qui est la mienne, est celle de ceux qui, comme moi, prêchent ou font des discours religieux, est à passer au crible de la raison de celui qui la reçoit. Et on doit vraiment lutter pour que, eh bien, personne ne suive personne, mais qu'au contraire, tout le monde agisse en son âme et conscience. C'est le but de l'islam, et il se trouve que, comme disait autrefois Jean de La Fontaine, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Il y a des gens qui prennent plaisir, n'est-ce pas, ou qui ne pensent exister qu'en s'imposant aux autres, alors que c'est pas du tout de cette manière-là que la religion musulmane doit être vécue, et même la vie dans son ensemble. tout le monde doit pouvoir choisir de jeûner ou de ne pas jeûner, de prier ou de ne pas prier. Et de toute façon, islamiquement parlant, ce n'est pas acceptable de jeûner parce qu'on a peur de quelqu'un, ce jeûne ne servira à rien. Donc celui qui contraindrait une personne à jeûner alors qu'elle ne veut pas, c'est quelqu'un qui, en fait, pousse quelqu'un à agir dans le vide et, pire encore, qui prend en otage une personne qui doit être libre parce qu'elle est libre tout autant que lui.
Est-ce que vous pensez que la période de confinement va rendre plus difficile, Mohamed Bajrafi, le fait de suivre le ramadan? Est-ce qu'il y a un certain nombre de difficultés pratiques et puis l'impossibilité de se réunir à la mosquée? Tout cela font que ce ramadan, de toute façon, sera particulier.
Franchement, je ne pense pas. En fait, on a donné à ce rite un caractère festif qui n'a strictement rien à voir avec l'esprit du rite. En fait, on se prive de boire, de manger et d'avoir des relations intimes, notamment on se prive de manger pour davantage être dans la peau de celui dont c'est le quotidien que de ne pas pouvoir manger tous les jours et ce faisant ou subséquemment être capable de lui tendre davantage la main. C'est le but de ce rite. Malheureusement, certains, par habitus, en sont venus en faire un instant de fête où on se réunit et on s'empiffre, alors qu'en réalité, on ne doit pas rattraper les repas qu'on n'a pas pris dans la journée, mais au contraire, se contenter d'un seul repas pour, n'est-ce pas, pouvoir davantage, comment dire, priver le corps pour donner et nourrir l'esprit. C'est ça le but de ce rite. Donc en fait, il n'y a pas de festivité en réalité, mais malheureusement, on en a fait un mois de festivité au lieu d'être un mois de spiritualité pure et simple.
Et donc c'est une période quand même de mortification ?
Non, pas du tout. En fait, c'est une période de liberté, si vous me permettez. J'ai en tête cette phrase d'Alexandre Kojève dans son introduction à Hegel qui disait « L'homme est conscient de soi, conscient de sa réalité, de sa dignité humaine, et c'est en ceci qu'il diffère essentiellement de l'animal qui se laisse dépasser par le niveau du simple le sentiment. En fait, comme les existentialistes, je dis que je suis libre parce que je vois quelque chose qui me tente et que je ne prends pas. Eh bien, j'ai la possibilité de manger dans la journée, mais parce que je suis libre d'être libre, c'est dire non, disaient les existentialistes. Donc, je dis non à cette nourriture qui me tente, je dis non à cette boisson que j'aurais aimé prendre. Et voyez-vous, donc, c'est pas de la mortification, mais plutôt de la liberté. Je gagne en liberté en faisant du self-control.
Mais ce self-control est aussi quelque chose qui vous fait souffrir. Est-ce qu'il y a une sorte de rencontre du corps et de l'esprit pendant cette période particulière du ramadan, Mohamed Bajrafi, vous qui êtes imam?
Oui, en fait, contrairement à ce que l'on pense, on mange à la rupture au coucher du soleil. Et avant l'aube, on mange également pour, n'est-ce pas, pour ne pas avoir à souffrir dans la journée de faim et de soif. Donc, par exemple, là, on est autour de 5 heures selon les endroits. Donc, je peux manger jusqu'à 5 heures. Donc, généralement, on se réveille à 4 heures du matin. On mange, on prend un repas qu'on appelle sahour en arabe, le repas, n'est-ce pas, qui précède le jeûne, de manière à être capable de tenir dans la journée. Donc voyez-vous, ce n'est pas une privation au sens de se faire souffrir physiquement. Et d'ailleurs, quand on jeûne et que l'on voit que corporellement on ne tient pas, eh bien il nous est obligatoire de rompre pour rattraper une autre fois. Donc encore une fois, il faut comprendre que la vie humaine passe avant tout rite, hein, et qu'à chaque fois que celle-ci est menacée, on doit abandonner la pratique du rite pour la journée à plus tard.
Et cette période donc de confinement est aussi une période de combat contre la maladie. Vous,
allô,
qui êtes... Oui, Mohamed Bajrafi, est-ce que vous m'entendez? Ah, j'ai l'impression qu'il y a un petit problème de liaison. Peut-être que l'on va essayer d'appeler Mohamed Bajrafi au téléphone et tenter... Comme cela, de poursuivre cet entretien qui porte sur le ramadan et sur la période particulière que nous traversons, puisque un ramadan qui est fixé aujourd'hui à l'apparition de la première lune à 3h26 exactement, c'est une décision qu'a prise le Conseil français du culte musulman. C'est ce qu'on appelle la nuit du doute. avec des circonstances inédites, bien entendu, qui chamboulent les rituels publics du Ramadan. Il n'y aura pas de retrouvailles en famille, ni prières à la mosquée, et donc les croyants vont être renvoyés à une autre pratique. Alors, la question qu'on se pose, et que je vais poser à Mohamed Bajrafil dès lors que je l'aurai à nouveau au téléphone, consiste à savoir si il est possible de faire communauté quand chacun est tenu à distance de l'autre, ou bien que peut la religion pour traverser cette épreuve, puisque c'est bien évidemment une épreuve pour tous. Est-ce que la religion peut avoir des vertus consolatrices lorsqu'on est dans cette période de confinement et lorsqu'on a donc l'obligation de jeûner pendant la journée sans avoir la possibilité véritablement d'être avec les autres? Est-ce qu'il y a une possibilité de reprendre une vie religieuse véritablement? Peut-être que, comme Mohamed Bajrafil n'est toujours pas joignable, je vais en profiter pour évoquer avec vous la journée de demain sur France Culture, qui sera une journée spéciale Imagine le monde de demain, avec un certain nombre d'invités. C'est un partenariat avec Uzbek et Rika. Et demain, pendant les matins, j'aurai le privilège de recevoir Mathias Sénard, le romancier qui est prix Goncourt 2015, si la liaison est meilleure qu'avec Mohamed Bajrafil. Puis mon camarade Xavier Mauduit recevra l'historien Pascal Horry pour aller sonder dans le passé de quoi éclairer le présent. Je crois que Mohamed Bajrafil est de retour.
Oui, rebonjour, voilà. Désolé.
Ah, vous voyez, on n'a pas la possibilité d'agir malgré ses prières sur Internet. Vous êtes au téléphone maintenant ?
Oui, je suis au téléphone, oui.
Voilà, c'est un procédé plus robuste, mais au moins qui ne rompra pas. Mohamed Bajrafil, je vous demandais quel était votre regard sur ce qui pouvait être perçu comme une punition, la maladie, elle était de manière ancestrale. Aujourd'hui, vous qui êtes imam, comment expliquez-vous cette période? Comment l'expliquez-vous aux fidèles? Et comment pourriez-vous l'expliquer à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui?
Alors, je sais que c'est très facile. Les Lumières, notamment Voltaire et Pierre Bayle et d'autres en ont parlé, de chercher à voir à travers un mal qui nous arrive une punition divine. C'est pas du tout la conception islamique de la chose. En islam, on nous apprend que tout ce qui nous arrive, c'est ce dont nous sommes nous-mêmes les auteurs. Une manière de nous apprendre à prendre notre propre responsabilité. Donc je dis d'abord que c'est pas une punition divine, c'est une épreuve, et dans la vie on en traverse pas mal, et généralement une épreuve est censée nous faire grandir, nous renforcer. Donc on porte, nous, en tant que croyants, en tant que des docteurs de la foi, comme vous le disiez tout à l'heure, eh bien, une parole d'espérance, parce que croire, c'est espérer et faire espérer. Donc on essaye plutôt d'apporter une parole d'apaisement, une parole d'espérance, donner de l'espoir aux gens. Car voyez-vous, le désespoir tue tout autant que la solitude et la maladie. Et je pense que la pire des maladies qui soit, c'est la maladie du désespoir. Et là, on est vraiment en plein dedans, raison pour laquelle la parole de ceux qui interviennent, et ceux, quelles que soient les religions, doit être une parole d'apaisement, et d'espoir et d'espérance. Parce que croire, foi, la foi, c'est l'espérance.
Que dit le Coran sur la maladie, Mohamed Bajrafil?
Le Coran parle de la maladie comme une épreuve, tout autant d'ailleurs qu'il dit du bien qui nous arrive comme une épreuve, en fait. On passe comme un examen à l'issue duquel, eh bien, nous aurons à être évalués selon la manière dont nous nous serons comportés. Donc le Coran aborde la maladie comme une épreuve qui arrive à l'homme tout au long de sa vie, et c'est la raison pour laquelle on nous dit aussitôt qu'on nous parle de cette épreuve que, eh bien, quand une épreuve arrive, deux biens nous arrivent. Le premier, c'est celui justement de sortir de cette épreuve, et quand on en sort, on est très content. Et le second est justement cette liberté, cette santé que l'on retrouve qui nous ouvre sur d'autres horizons. Et c'est la raison pour laquelle, si j'ai envie de passer si j'avais un mot à passer aujourd'hui, ce serait de dire aux gens: ayez confiance à l'avenir, n'ayons pas de pensée mortifère, et surtout apprenons à respecter ce confinement, parce que le confinement corporel, conjugué avec le confinement spirituel peut être quelque chose de très bon à la fois pour la foi et l'espérance.
Est-ce qu'il y a une distinction entre la maladie et l'épidémie dans le Coran ? Est-ce que le fait que ce soit l'autre, évidemment à son insu et contre son gré, qui transmette la maladie, est-ce quelque chose de pensé dans la religion ?
Alors, dans la religion musulmane, on est vraiment dans le pratico-pratique. Un propos du prophète nous dit, si vous apprenez que dans une région donnée se développe une épidémie, ne vous y rendez pas, et celui qui s'y trouve ne doit pas en sortir. Donc il y a vraiment là, l'idée que, on agit vraiment de manière pratico-pratique, parce que tout doit être fait pour sauver la vie, autant de l'autre que la nôtre, en fait. Et ce faisant, ce que dit l'islam est que clairement, il faut prendre toutes les précautions nécessaires, parce qu'en islam, comme c'est le cas dans les autres religions sœurs de l'islam que sont le judaïsme et le christianisme, sauver une vie, c'est l'équivalent de sauver l'humanité, et en enlever une, c'est comme enlever la vie à toute l'humanité. Donc c'est vraiment dans cet esprit-là que l'on conçoit justement le rapport à l'épidémie.
Et alors, de manière plus pratique, Mohamed Bajrafil, peut-être plus prosaïque, mais à la fois tout aussi grave et sérieuse, beaucoup de gens vont avoir des difficultés ou ont déjà des difficultés pour vivre suite à ce confinement. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger avec certains de vos fidèles à ce sujet ?
Alors, vous savez, le mot religion vient du latin religere, qui signifie soit accueillir, soit réunir. Donc, dans les deux cas, on est dans ce besoin de se retrouver, n'est-ce pas, entouré de siens et donc des fidèles, etc. Sauf que là, on se rend compte que c'est au contraire parce que nous nous aimons mutuellement que nous devons apprendre à rester les uns loin des autres. Sandrar se disait, je le disais hier ailleurs, que quand on aime, il faut partir, il faut savoir quitter son enfant, sa femme, etc., pour pouvoir se rendre compte de leur importance. Et je pense que ce confinement va nous donner une leçon en créant en nous ce que moi j'appellerais un chagrin d'amour qui va faire en sorte qu'on va se désirer, on va désirer nous rencontrer davantage parce que nous sommes séparés. Donc il y a ce besoin que les gens ont de pouvoir se retrouver, etc., dans les lieux de culte, mais on se dit pour le bien de tous, eh bien nous ne devons justement pas nous voir le temps de juguler cette crise qui est celle du coronavirus. Donc il y a un peu de frustration, mais on leur dit, mais justement, il faut pas que vous soyez frustrés, accepter les décisions divines et le passage de la vie, les aléas de la vie, eh bien en nous confinant mutuellement, parce qu'on se retrouvera.
Mais alors que vont devenir par exemple les grands pèlerinages, le pèlerinage à la Mecque par exemple, Mohamed Bajrafil?
Ils seront purement et simplement annulés, et ce ne sera pas une première dans l'histoire de l'islam. Le pèlerinage a été annulé totalement ou partiellement en plus d'une quarantaine de reprises.
Donc il ne faut pas non plus. Pour quelles raisons notamment?
Pour des raisons d'épidémie et pour des raisons politiques, parce qu'il y avait des épidémies par exemple qui ont décimé à la fois les pèlerins et les bêtes qui devaient être sacrifiées. Donc c'est pas une première. En fait, plus d'une quarantaine, je l'ai écrit quelque part, je crois sur un réseau social, où j'expliquais, j'ai donné toutes les dates, où vous avez à peu près plus d'une quarantaine de reprises où le pèlerinage a été totalement ou partiellement annulé. Donc pour ceux qui seraient tentés de voir à travers cette épidémie, parce que je les vois venir de très loin avec leurs grands sabots, de dire que c'est la fin du monde, etc., on leur dit non, 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 même au temps des prophètes et des meilleurs, il y a déjà eu des pandémies, des épidémies qui ont décimé des milliers de personnes, et c'était pas pour autant la fin du monde.
Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a une loi au-dessus de Dieu, je ne sais pas, des principes sanitaires, ou ça veut dire que la loi de Dieu contient des principes sanitaires ou une préoccupation vis-à-vis donc de la santé des fidèles, Mohamed Bajrafil ?
Ben, il y a une règle en islam que tout musulman devrait connaître, qui dit que quand le droit de Dieu est en opposition avec celui de l'homme, c'est celui de Dieu qui tombe au profit de celui de l'homme. Cette règle-là permet justement de sauver la vie et de prioriser la vie. Donc aucun rite ne peut ou ne doit, dans son accomplissement, mettre en péril la vie de l'homme. Si c'est le cas, le rite est purement et simplement annulé ou ajourné. Et c'est la raison pour laquelle, pour ceux qui font pour ce qui est du ramadan, quand on est malade et qu'on sent qu'on va tomber dans les pommes, on arrête de jeûner. Il est interdit aux enfants, enfin, les enfants ne jeûnent pas, les personnes malades ne jeûnent pas, les personnes qui sont en voyage ne jeûnent pas, les personnes, par exemple, qui exercent des métiers difficiles dont, justement, la vie dépend, ne jeûne pas, pour être précis et parler d'un cas concret. Les médecins, les personnels soignants qui, et on leur dira jamais suffisamment merci, dans ces périodes-là sont au quotidien face au Covid. S'ils sentent qu'en jeûnant, ils vont être, affaiblis sur le plan immunitaire, eh bien, peuvent ne pas jeûner pour rattraper plus tard. Voyez-vous?
On peut rattraper le jeûne, Mohamed Bajrafil?
On peut comment le rattraper. Alors, on jeûne une autre fois dans l'année. On a une année, voyez-vous, là, ce mois de Ramadan va, par exemple, se terminer dans 30 jours. Eh bien, on aura toute l'année jusqu'au mois de Ramadan prochain pour rattraper les 2, 3, 4 ou 5 ou même 30 jours qu'on n'aura pas pu accomplir. Donc, on les répartit sur l'année. On jeûne quand on veut, on jeûne, on laisse, jusqu'à ce que, à la fin de l'année, enfin à l'arrivée du Ramadan prochain, eh bien nous ayons accompli tous les jours que nous avions en retard.
Et alors, pour les difficultés, je parlais des difficultés sociales tout à l'heure, vous parliez des lois de l'homme et des lois de Dieu, mais on voit bien qu'en dehors donc de la menace de la maladie, on est aujourd'hui, la société française, mais d'autres sociétés sont menacées d'appauvrissement ou de difficultés pour trouver une subsistance suffisante en Occident, mais aussi dans d'autres lieux. Mohamed Bajrafil, est-ce que vous le ressentez? Que faire face à cela?
En fait, le ramadan, au contraire, est la pratique, j'ai envie de dire, qui va, si vous me permettez l'expression, le mieux avec la pauvreté, dans le sens où, justement, on mange peu pour pouvoir donner davantage à celui qui est dans le besoin. Et de ce point de vue-là, sur le plan de la solidarité, le ramadan, ou la pratique du ramadan, est j'ai envie de dire, la pratique la plus adéquate et la pratique idoine, parce que on me demande de me priver, par exemple, moi qui ai la possibilité de manger le matin, le midi et le soir, afin de pouvoir me mettre dans la peau de celui dont c'est naturellement le quotidien, parce qu'il n'a pas les moyens de faire autrement. Et d'ailleurs, il y a une aumône, un impôt que l'on donne à la fin du ramadan, dès lors que l'on a pu avoir à manger tout le long du mois et qu'il en est resté quelque chose. Ce petit quelque chose, je dois le donner à celui qui est dans le besoin. Donc on est vraiment dans le ramadan nous apprend un esprit de solidarité incroyable. On doit être solidaire les uns des autres, n'est-ce pas? Tendre la main à son voisin, faire en sorte que le voisin ne manque de rien, car en islam, si je devais vous donner la définition du voisin en islam, eh bien, tous nous sommes voisins les uns des autres. Alors, au-delà de la mondialisation, mais mon voisin, c'est celui qui, à partir de ma maison, va jusqu'à 40 maisons, à ma droite, à ma gauche, devant et derrière. Donc, tous ces gens-là, j'ai l'obligation religieuse de m'enquérir de leur situation. Mangent-ils? Sont-ils en bonne santé? Si je ne le fais pas, c'est que je n'ai pas accompli mon devoir de musulman. Et voyez-vous, ceux qui nous écoutent parmi nos auditeurs ont le droit de demander leurs droits à leurs concitoyens et voisins musulmans.
Justement, ce sera ma dernière question. On va souhaiter un bon ramadan à ceux qui vont jeûner, Mohamed Bajrafil, et les autres, ceux qui ne sont pas musulmans. Quelle place ont-ils dans une période comme le ramadan?
Une place tout aussi importante que celle de ceux qui ne jeûnent pas. Car voyez-vous, pour des raisons même purement physiologiques, je disais ailleurs que 50% pour des raisons physiologiques, de quelque population que ce soit, ne jeûne pas. Donc on doit voir en celui qui jeûne pas, eh bien, ce frère, celui par qui je me reconnais, parce que je suis jeûneur, mais lui, il ne jeûne pas, et c'est son droit de ne pas jeûner, et je m'enrichis de son expérience, comme celui-ci également a à s'enrichir de la mienne. Et voyez-vous, c'est de cette manière, je pense, que le ramadan doit être vécu, parce que nous, quand en islam, on nous parle du ramadan, on nous parle d'un rite qui est un rite très d'union. On nous dit qu'on nous a prescrit le jeûne comme il a été prescrit aux juifs et aux chrétiens avant nous. Donc voyez-vous, moi en jeûnant, je dois avoir dans l'esprit le fait que je jeûne comme le chrétien et le juif ont aussi à jeûner ou ont jeûné avant moi. Donc c'est vraiment cet esprit-là qui doit m'habiter, cet esprit de partage et surtout de trait d'union avec l'autre.
Merci Mohamed Bajrafil. Je rappelle votre livre « Réveillons-nous, lettre à un jeune français musulman » aux éditions Plein Jour. Et puis pour ceux qui souhaitent entendre l'islam sur France Culture, il y a « Question d'islam » de notre camarade Galeb Benchek chaque dimanche à 7h. Et bien entendu, vous pouvez podcaster l'émission.